J'ai le privilège de travailler avec les gens qui sont font baptiser ce matin, à les préparer pour ce baptême-là, mais aussi à travailler, pas juste une préparation, mais travailler dans leur cœur, voir ce que Dieu fait dans leur cœur, dans leur vie. Et c'est vraiment un privilège et une bénédiction pour moi de faire ça. Je vois vraiment l'œuvre de Dieu dans la vie de chacune de ces personnes-là. Et c'est un grand encouragement. On a 5 personnes qui se font baptiser ce matin. Et on va commencer par notre doyenne ce matin, qui est Sylvie. Une jeune doyenne. Sylvie va venir pour son témoignage tout de suite.
Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Sylvie Gauthier. J'ai 49 ans. Pour ceux et celles qui la connaissent, je suis la sœur de Camille Rondeau. Camille est chrétienne depuis 27 ans. Contrairement à ma sœur, j'ai toujours été athée. Jésus-Christ, Adam et Ève, c'était pour moi du délire collectif. La Bible, toujours selon moi, avait été écrite pour répondre à un besoin de croire en quelque chose. Et surtout, pour accepter la mort. Pour ce qui est des miracles, il devait y avoir une explication scientifique. Parce que les gens, il y a 2000 ans, étaient ignorants par rapport à nous aujourd'hui. Marcher sur l'eau, si ce phénomène se passait aujourd'hui, nous pourrions certainement l'expliquer. Peut-être que Jésus était un prestidigitateur exceptionnel. Voilà en gros ce que je pensais depuis toutes ces années. Mais j'avais un problème de taille. Je n'avais pas trouvé un sens à la vie. Je travaillais fort pour gagner de l'argent, mais les plaisirs que j'en tirais étaient toujours temporaires. J'en voulais toujours plus. Je me sentais constamment insatisfaite et je ne comprenais pas le but de la vie, de tout ça. Travailler, amasser de l'argent pour sa retraite, puis mourir. Ça, c'est la vie. Et peut-être que je me rendrais même pas là à cause d'un accident ou d'une maladie. Ça sert à quoi de vivre si tout ce qu'on fait mène à la mort? Par bonheur, j'aime la nature. J'aime marcher et contempler le ciel. Durant mes marches, une réflexion s'est imposée à moi. Comment autant de beauté serait-il le fruit du hasard? Un système solaire parfait, des planètes parfaitement rondes, des plantes aussi variées et tout le reste. Comment tout cela pouvait-il être le résultat d'une simple explosion? La théorie du Big Bang, qui était la théorie que je croyais, m'apparaissait tout à coup impossible. Et l'idée que Dieu soit le créateur de l'univers germait dans mon esprit. Et si c'était la vérité? J'ouvrais mon esprit à cette possibilité. Et mon désir de connaître la vérité prenait le dessus sur mes croyances. Puis un jour, toujours en contemplant la nature, des phrases que j'ai entendues dans mon enfance remontaient à ma conscience. Comme si on me parlait de l'intérieur. Aimez-vous les uns les autres. Dieu est en chacun de nous. Aime ton prochain comme toi-même. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Ces phrases ont fait naître en moi le désir de lire les paroles de Christ. J'ai donc commencé à lire la Bible avec l'immense privilège d'habiter chez ma sœur Camille. Grâce à cette situation, mon éducation biblique a été assez intense. Cependant, malgré tout cela, bien que je croyais en Dieu, je ne me sentais pas sauvée pour autant. Il m'a fallu, en plus des lectures, beaucoup de prières pour accepter Christ comme sauveur. Avec le temps, j'ai compris que Christ était mort sur la croix pour racheter les péchés de ceux qui s'en repentent, que je n'avais rien d'autre à faire que de lui demander pardon et de croire pour être pardonné. Dans la Bible, Jean relate une conversation de Jésus avec Nicodème au chapitre 3, verset 16. Il faut bien sûr lire tout le chapitre, c'est intéressant, mais le petit extrait que je vais vous lire en dit long. « car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. J'ai une fille, et je préférais mourir plutôt que de la voir souffrir. Dieu a fait subir cette épreuve à son Fils pour nous sauver. J'ai lâché prise. J'ai lâché prise sur mon passé et je me suis tournée vers Christ. Je lui ai abandonné ma vie. Au même moment, tout a basculé. Je n'entendais plus les choses que j'entendais habituellement. Je ne voyais plus les mêmes choses qu'auparavant. Comme si j'avais sauté à travers un miroir et que je m'étais retrouvée de l'autre côté. Je recevais du même coup les réponses tant cherchées. J'ai alors compris ce que voulait dire naître de nouveau. L'Esprit Saint m'éclairait. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Ma conversion en est une et mon baptême représente un engagement envers Christ pour le meilleur et pour le pire, pour le vrai, pour la vie, pour l'éternité. Conclusion. La vie sans Christ mène à la mort et elle est totalement absurde. La vie en Christ est un chemin qui mène à la vie éternelle. Amen.
Dieu a fait des grandes choses dans la vie de Sylvie. Il est allé la chercher quand même très loin. Mais il se sert de différentes choses pour toucher les cœurs. Prochaine personne est Mary Roberts.
Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mary. J'ai 22 ans et presque toutes mes dents. Née dans une famille chrétienne, je suis la première de deux enfants. J'ai eu beaucoup d'amour, d'affection, de correction et d'encouragement dès mon jeune âge. Jamais je n'ai manqué quoi que ce soit. À l'âge de 4 ans, j'aidais ma mère à préparer des biscuits. Lorsqu'ils étaient sortis du four, j'ai demandé d'en avoir un. Ma mère m'a dit non. J'en ai pris un quand même et ma mère m'a puni. Après, j'étais dans ma chambre et ma mère est venue m'expliquer que ce que j'avais fait était mal. Je lui faisais de la peine en lui obéissant pas, mais plus important, je faisais de la peine à Jésus. Oui, ma mère m'aimait, mais Jésus m'aimait encore plus et cela l'attristait d'autant plus. Puis, elle m'explique que Jésus était mort à la croix pour moi, car il m'aimait, et à cause de cela, malgré ma désobéissance, je pouvais aller au ciel le rejoindre quand je mourrais. J'ai compris à ce jeune âge que Jésus m'aimait énormément, encore plus que mes parents, et je voulais être au ciel avec lui un jour. J'ai donc prié, je lui ai demandé d'avoir une relation avec lui. Puis, je suis entrée au primaire. J'étais une petite fille très influençable, et c'était très important pour moi d'être cool. Je faisais donc des mauvais coups comme mes amis, j'acceptais d'être méchante, ou de rouspéter au professeur. Les choses allaient bien dans ma vie. Un soir, comme le faisaient à tous les soirs mes parents, mon père priait avec mon frère dans sa chambre et mon frère a voulu cette même relation avec Jésus. J'ai demandé à mon père s'il fallait peut-être que je redemande à Jésus d'avoir cette même relation avec lui. Mon père m'a réexpliqué l'histoire d'une relation avec Jésus et puis, cette fois, ayant compris un peu plus le principe, j'ai prié avec mon père. Cette relation avec Jésus a changé la façon dont je faisais les choses. J'ai pris position pour qui j'étais et j'ai arrêté d'être influencée par n'importe qui. J'ai commencé à vivre mon quotidien de façon qui reflétait à ceux autour de moi l'amour que Jésus avait pour moi. Les choses ont vraiment changé. L'été après ma sixième année, avant de commencer le secondaire, mon père nous a annoncé que nous déménagions à Calgary. Je me rappelle de ne pas trop y avoir pensé et lorsque mes amis me disaient au revoir en pleurant, de ne pas vouloir le réaliser. Arrivée à Calgary, j'ai tout de suite entamé le secondaire et je n'étais pas intéressée à me faire de nouveaux amis. Ceci a été correct pour un mois. Après un mois, j'ai vite réalisé que je n'avais pas d'amis. J'ai commencé à être un peu déprimée. J'étais très frustrée et j'en voulais à tous autour de moi. Mes relations avec ceux qui m'aimaient ont commencé à en souffrir et je n'étais vraiment pas heureuse. Je me suis en quelque sorte lancée à la poursuite du bonheur. Je me suis concentrée à avoir des bonnes notes à l'école, mais quand je les ai eues, je n'étais pas plus heureuse. Alors, j'ai essayé de me concentrer à tout le temps faire du sport. Ça ne m'a pas rendue plus heureuse. Les autres choses non plus n'arrivaient pas à me rendre heureuse. Depuis le début de mon arrivée à Calgary, j'allais à la jeunesse de mon église. Je n'avais pas réussi à me faire des amis proches, mais les filles de mon âge étaient vraiment sympathiques et j'aimais y aller. Au mois de mai, on est parti à une conférence pour jeunes. Je sais que le samedi soir, je me suis retrouvée à une réunion où il y avait le conférencier de la fin de semaine qui parlait. J'avais passé jusqu'à maintenant une super fin de semaine remplie de belles activités avec les autres jeunes de mon église. À la fin de la réunion, le conférencier avait parlé de l'amour de Jésus Mes amis et moi sommes restés pendant qu'un chant jouait en boucle. C'est le chant que j'ai choisi ce matin. Et on priait chacun pour soi. J'ai levé les yeux à l'écran, à l'avant, un peu comme ici. Il y avait une photo d'une croix. Il était écrit. J'ai demandé à Jésus, « Combien m'aimes-tu? » Il me répondit, « Autant que ça. » Il étendit les bras, il est mort. Je voulais tellement de cet amour. Je voulais tellement de l'amour de tous les jeunes de mon église. Un amour qui pouvait aimer une personne non aimable et malheureuse. Je me suis mise à pleurer. J'ai pleuré pour toutes mes frustrations, toute la tristesse, toute la haine qui était en moi. J'ai remercié Jésus pour ce qu'il avait fait à la croix pour moi, pour son amour. J'ai décidé ce soir-là que toute ma vie allait être un reflet de cet amour. Je suis revenue chez nous et j'avais une joie. Une joie de vivre, une paix, un amour. J'ai fini l'année scolaire pénible que j'avais commencée et cela a été encore plus difficile. Les changements étaient seulement à l'intérieur de moi, mais cela changeait mon point de vue de la vie complètement. Cet été-là, je suis revenue passer mes vacances au Québec. Mon père alors annonça à ma famille que nous retournions habiter au Québec dans 2 semaines. Je suis retournée à l'école où j'allais avant. Il y avait une école secondaire qui y était rattachée et j'ai retrouvé tous mes amis. J'étais différente. Je vivais ma vie, je prenais mes décisions pour Jésus. Oui, il y a eu des trucs tough au secondaire, mais je crois que j'ai eu des amis qui ont été plus proches que des sœurs et ensemble, on a eu la chance de passer à travers ces choses. Je crois que ma relation avec Jésus est un peu une histoire de choses apprises. J'avais de la misère à être heureuse. Je me disais que je pouvais toujours être un peu plus heureuse en ayant telle chose ou en accomplissant telle chose, mais ces choses ne suffisaient pas à mon bonheur. Un ami au secondaire était une vraie boule de joie contagieuse. Tout le monde aimait être autour de lui car il dégageait le bonheur. Je me suis mis à réfléchir et j'ai réalisé. Ce gars avait vécu le divorce de ses parents, le rejet de son père, sa famille n'avait pas d'argent, il a perdu son meilleur ami. En réfléchissant un peu, j'ai réalisé que la joie était quelque chose qui se décidait et qui se travaillait. Ce n'était pas quelque chose que l'on obtenait à travers un accomplissement ou une chose. Dans Philippiens 4:11, il est écrit « Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Ma première année de cégep, une bonne amie m'a permis de vivre le décès de sa mère avec elle. On réalise rarement à quel point la vie est précieuse et à quel point c'est un cadeau que Dieu nous fait à tous les jours. À mon âge surtout, on ne pense pas souvent à la vie ou à la mort. On croit que c'est pour ceux qui ont besoin d'aide ou qui ont besoin de régler quelque chose. Par contre, je crois sincèrement que tout le monde arrive à passer par des moments plus difficiles, des moments où l'on doit réfléchir aux choses comme la vie et la mort. Si je suis ici ce matin devant vous, c'est que je désire me faire baptiser. Le baptême, pour moi, c'est vous expliquer en qui je crois et comment j'y suis parvenue. Ça n'a rien de magique. C'est tout simplement un symbole de mon changement de point de vue. Merci.
Quel dynamisme! C'est une boule d'énergie qu'elle disait que son ami était... Mais c'est une boule d'énergie, ça, Mary, aussi, là. Tu sais, c'est fantastique. Mais même si on dégage la joie de vivre, ça n'empêche pas qu'on a besoin d'un amour sincère. Peu importe qui on est, où on est. Prochaine personne, Julien.
Donc, bonjour à tous. Merci à tous les invités là, qui ont pu se déplacer ce matin. OK, je commence. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Julien, j'ai 24 ans et je suis le troisième d'une longue lignée d'enfants. Je suis né dans une famille chrétienne où on m'a toujours enseigné la parole de Dieu. Quand j'avais 6 ans, sûrement après avoir fait quelque chose de mal, ma mère m'a expliqué le plan du salut. Et cette journée-là, j'ai accepté le Seigneur dans mon cœur. À cette époque, j'avais peur d'aller en enfer et je n'aimais pas les conséquences du péché. Durant tout mon primaire, j'ai appris plein d'histoires et de versets de la Bible. J'allais à l'école du dimanche et avec Sébastien et Jacob, on aimait vouloir être les meilleurs. Puis arriva le secondaire. Je faisais énormément de sport et celui-ci prit la place du Seigneur dans mon cœur. Comme dans Matthieu 6, verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Je délaissais plusieurs bonnes habitudes que j'avais, comme faire ma lecture ou prier. Je ne pensais qu'au sport et me disais que ça ne pouvait pas être mal puisque c'était bon pour ma santé et ça m'évitait de me retrouver dans le trouble. J'étais un bon gars, pas pire qu'un autre, et mes amis savaient que j'étais croyant. Je savais comment sauver les apparences et j'évitais de salir le nom du Seigneur. Mais lui savait l'état de mon cœur et mon amour pour lui n'était en fait que parole. Je savais ce que je devais faire, mais je voulais vivre ma vie et faire moi-même mes erreurs. Malgré tout ça, Dieu a été gracieux avec moi, m'a protégé et m'a permis de réussir malgré tout. Je sais que personnellement que durant toutes ces années, mon père et ma mère ont toujours prié pour moi. Leur amour a certainement fait une différence. À plusieurs occasions, j'ai remis ma vie en règle, mais chaque fois, je tentais de le faire seul pour montrer à Dieu que je voulais vraiment changer. Mais chaque fois, j'atteignais ma limite et retombais dans mes habitudes. Chaque fois, un verset me revenait en tête, dans Matthieu 16, verset 26, « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? » À ma deuxième année d'université, j'ai rencontré deux bons amis, J.P. Gouin et Mary, avec qui je pouvais parler de ce que je vivais. Nous sommes devenus proches et j'avais l'impression d'être redevable. Il y avait longtemps que je n'avais pas eu d'amis chrétiens et je trouvais qu'il était un bon exemple de chrétien heureux dans le Seigneur. J'ai eu la conviction qu'il était temps que je cesse de chercher ailleurs ce que j'avais toujours eu chez moi. Je suis revenu au Seigneur en lui demandant de me transformer, en le laissant agir en son temps et à sa façon. Toutes ces années où j'ai dit au Seigneur « pas maintenant » ont été une perte de temps. J'ai longtemps eu la conception qu'un chrétien devait être irréprochable avant de se faire baptiser. Je mets aujourd'hui un terme à ce mensonge en me faisant baptiser par obéissance à Dieu et pour montrer à tous en qui j'ai mis ma confiance. Merci.
Il reste deux autres baptêmes, mais avant, je vais vous partager quelque chose. Julien, quand il est venu ce matin faire son témoignage, ce qu'il ne savait pas, c'est que sa mère était présente. Alors, Madame Hamel, c'est une bénédiction pour nous de vous avoir avec nous. Madame Hamel est présentement convalescence à cause d'un cancer et elle a fait la surprise à son fils ce matin. Prochaine personne, Élise, elle aussi a un témoignage à nous donner et ce que Dieu a fait dans sa vie.
Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Élise de Grandmaison, j'ai 21 ans et je suis la fille de Paul et Monique et la petite sœur à Charles. J'ai grandi dans une famille évangéliste baptiste et je fréquente ainsi l'église de Longueuil depuis environ 15 ans. C'est lors de l'été 1998, à l'âge de 8 ans, au camp chrétien Bethel, que j'ai accepté Dieu comme mon sauveur personnel. Ma monitrice m'avait à ce moment-là fait lire le verset Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai compris à ce moment, bien que je me l'étais fait dire auparavant, que j'étais pécheur et que Jésus était mort sur la croix pour mes péchés à moi et que je pouvais accéder au ciel en l'acceptant comme mon sauveur, sans rien avoir à lui donner en retour, sinon ma foi. En 2000, à l'âge de 11 ans, mon grand-père est décédé et cela a énormément affecté ma relation avec Dieu. En effet, ma mère souffrait beaucoup de cette perte et j'en voulais à Dieu de l'avoir si peinée et de lui avoir enlevé trop vite son papa. Mon cœur était révolté et par conséquent, je me suis mise à suivre le courant du monde pendant au moins un an. En ayant comme modèle ma mère, j'ai fini par réaliser et comprendre qu'elle avait accepté la mort de son père et qu'il ne fallait pas se laisser abattre par cela. Bien au contraire, qu'il fallait plutôt se concentrer sur toutes les bénédictions que Dieu nous accordait si généreusement à travers nos vies. En effet, nous avions tous la santé, une famille possédant de bonnes relations, un travail, un toit où il faisait bon vivre, un accès à l'éducation pour mon frère et moi, etc. De cette façon, j'ai retrouvé le sens de l'amour de Dieu pour moi. J'ai toujours été une personne extravertie et sociable, et être acceptée par mes amis était pour moi extrêmement important. Toutefois, je n'ai pas toujours été influencée positivement par les autres, et j'étais loin d'être un modèle aux yeux de ceux qui m'entouraient. Au secondaire, j'étais devenue une personne hypocrite, manipulatrice et irrespectueuse, seulement pour faire comme tout le monde et être considérée comme une fille vraiment cool, tandis qu'en dedans de moi, je savais clairement que ce que je faisais était mal, mais je recommençais à chaque fois par peur de perdre tous mes amis. Cela a été une longue bataille pour moi, et ma vie chrétienne a ainsi souvent été affectée lorsqu'il était question d'agir comme les personnes que je fréquentais. J'avais clairement un manque de stabilité et de paix dans mon cœur à travers ces années-là. Toutefois, c'est grâce à ma relation avec Dieu, à la maturité qui prenait place, ainsi qu'au soutien de mes parents qui m'encourageaient sans cesse à être qui je suis, que j'ai réussi à me défaire de certaines personnes qui étaient de mauvaise influence pour moi et qui me nuisaient énormément. J'ai vite réalisé que mes bons amis m'acceptaient tel que j'étais, peu importe la croyance en Dieu que j'avais, même que la plupart voyaient un côté positif et sensible en moi qu'ils ne retrouvaient pas ailleurs dans leur entourage. C'est donc pourquoi aujourd'hui, je n'ai plus cette lutte constante dans mon cœur de plaire aux autres, grâce au Seigneur qui est toujours présent pour entendre mes prières et mes luttes. J'ai longtemps pensé que pour me faire baptiser, je devais être parfaite aux yeux de Dieu. Mais en étudiant la parole de Dieu, en discutant avec mes proches, j'ai réalisé que ce n'était pas ce que Dieu me demandait. En effet, le baptême est avant tout un geste d'obéissance, alors que moi, j'essaie d'obtenir la faveur de Dieu par ma conduite, ce qui est une erreur, car il est dit dans 1 Samuel 15, verset 22, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je me fais donc baptiser aujourd'hui pour démontrer à tous ma foi et mon obéissance envers Dieu, mon Créateur. Il a transformé ma vie et m'a donné une paix dans mon cœur que nulle part ailleurs sur terre j'aurais pu trouver. Il m'accompagne tous les jours dans mes luttes et mes combats, dans mes peines et mes joies, dans mes échecs et mes succès, et je sais que je peux et pourrai toujours compter sur lui pour me réconforter et me soutenir. Depuis que j'ai accepté le Seigneur, je vois la vie sous un meilleur jour et je désire le suivre pour le restant de ma vie. En terminant, voici un verset de la parole de Dieu qui me touche personnellement et qui démontre son amour et sa fidélité envers moi. On lit dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Merci.
Jusqu'à date, vous avez vu des personnes qui viennent de différents milieux, des jeunes, plus âgés, des gens qui viennent de familles chrétiennes, des familles, d'autres qui viennent athées complètement, qui ne croyaient pas en Dieu. Mais en tout temps, ces gens-là reconnaissent qu'ils sont pécheurs et ils ont besoin d'un sauveur, comme n'importe qui. La dernière personne, pas la moindre, Yannick Labéry, lui vient d'une famille chrétienne, mais il y a un tout témoignage aussi.
Bonjour à tous. Je m'appelle Yannick Labry et j'ai 23 ans. Je viens d'une famille catholique et j'ai été élevé dans ses traditions. J'ai toujours cru étant jeune qu'il y avait un seul Dieu et qu'il fallait mériter sa place au ciel. Cela ne m'a pas empêché d'être un enfant plutôt détestable. J'enchaînais les mauvais coups sans trop me soucier du mal que je pouvais causer. C'est un peu après le début de l'école secondaire que je me suis éloigné de mes croyances. Il n'avait rien de plus important pour moi que ma propre personne. Mon désir d'être aimé et accepté a pris le dessus sur tout. Les choses que je m'étais juré de ne jamais vouloir être ou faire faisaient maintenant partie de mon mode de vie. J'ai développé un comportement manipulateur, je mentais, je me faisais constamment influencer à suivre les habitudes de ma génération. J'étais devenu centré sur moi-même. En vieillissant, ces comportements ont empiré et je fermais les yeux sur la personne que j'étais devenu. Mes parents ont eu beaucoup de patience avec moi, malgré mon manque de gratitude et de savoir-vivre. Vers l'âge de 16 ans, mes parents ont pris la décision de se divorcer. À travers ce divorce, ils m'ont donné tout l'amour qu'ils pouvaient me donner. Même avec tous leurs efforts pour m'aider, je ressentais un vide. J'ai donc, par tous les moyens, essayé à travers toutes sortes d'expériences de combler ce vide qui était en moi, vide que seul Jésus-Christ pouvait remplir. Plus le temps avançait, plus ce manque venait me gruger le corps et l'esprit. La vie commençait à perdre son sens. Pourquoi suis-je né? Quand vais-je mourir? Quelle est la raison de mon existence? Où mon âme ira-t-elle après la mort? Vers l'âge de 20 ans, en présentant mes combats à deux amis croyants, j'ai appris que la vie de l'homme sera toujours parsemée d'épreuves et qu'on a le choix de les traverser seul ou avec l'aide de Dieu. Ces paroles furent troublantes. Je ne voulais pas retourner à l'Église par peur d'être jugé pour toutes les erreurs que j'avais commises et pour la personne que j'étais devenue. Après avoir longuement discuté avec l'un d'entre eux au sujet de l'Église qu'il fréquentait, l'Église sans frontières, j'ai décidé d'y aller étant piqué de curiosité. J'y suis retourné à quelques reprises lorsque j'avais besoin de me faire pardonner et je ressentais un bien-être d'un court instant à chaque fois. Je ne voulais toutefois pas changer mes mauvaises habitudes qui me procuraient un plaisir temporaire. À ce moment de ma vie, je désirais être célibataire, car j'avais vécu trop de déceptions et que j'étais bien seul par moi-même. Toutefois, Ce n'était pas dans le plan de Dieu, puisqu'il mit sur mon chemin Élise de Grand-Maison, une amie et ancienne collègue de travail, qui s'avéra être une grande bénédiction. En effet, en apprenant à la connaître, elle et sa famille, j'ai appris à connaître Dieu et me rapprocher de lui par le fait même. Après un an de fréquentation, année où je ne suis pas allé à l'église une seule fois, j'ai accepté l'invitation d'Élise au témoignage de Tony Anthony, me sentant intrigué par ce maître de kung-fu, ayant moi-même pratiqué les arts martiaux pendant près de la moitié de ma vie. Je fus touché et interpellé par le reflet de l'œuvre de Jésus dans sa vie, et j'ai à ce moment demandé à Dieu d'entrer dans la mienne et d'être mon sauveur personnel. À partir de cette soirée, j'ai pris la décision de fréquenter l'Église de l'Espoir, tout en suivant le cours de nouveaux chrétiens. J'ai commencé l'étude de la Bible et j'ai joint le petit groupe Collège et Carrière, même si on m'avait expliqué comment je pouvais avoir l'assurance d'aller au ciel, un doute persistait en moi. J'avais encore l'impression qu'il me manquait quelque chose à accomplir. Je ne méritais pas ma place plus qu'un autre. C'est lors d'un échange avec Alexandre Marquis et Jacob Fernand que nous avons lu ensemble le plan du salut. C'est grâce au verset suivant que j'ai compris que la vie éternelle était le don gratuit de Dieu et qu'on ne pouvait ni la gagner ni la mériter. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Sauveur, notre Seigneur. Et Éphésiens 2, verset 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Jésus est donc mort sur la croix pour le prix de mes péchés. Il est ressuscité des morts pour me préparer une place auprès de lui. J'ai donc décidé de me faire baptiser aujourd'hui en signe d'obéissance envers mon Sauveur, celui qui a donné son Fils en amour pour moi. Je sais que ma chair est faible et que j'aurai à combattre les épreuves et les péchés tout au long de ma vie. Depuis que son esprit est entré en moi, il m'a rendu plus sensible à la personne que j'étais. Je suis moins égoïste, centré sur moi-même, et il est naturel à présent de les montrer aux gens que j'aime à quel point ils me sont chers. Il a entièrement changé ma perception des plaisirs superficiels de la vie. Je suis désormais plus humble, et il m'a montré à pardonner et m'excuser lorsque j'agis de mauvaise façon. C'est donc sans hésitation que je lui demande à chaque jour de guider chacun de mes pas dans le désir de lui ressembler. Le chemin de la perfection est le travail d'une vie, et sans son aide, il m'est impossible de l'atteindre. Je sais qu'il m'aime et me pardonne dans sa grâce chaque fois que je me repens. Il écoute et répond à mes prières. Je comprends à présent à quoi sert mon existence et où ira mon âme, quoi qu'il m'arrive. Pour conclure, je vais vous citer les versets 5 à 9 du psaume 34 qui me touchent personnellement. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel crampe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Merci Seigneur de m'avoir écouté lorsque je t'ai cherché. Tu m'as montré mes ruines, et je me suis couvert de honte. J'étais malheureux, et tu m'as sauvé de tous mes remords. Gloire à toi, Seigneur, car dans ta grâce, tu m'as transformé et me protèges chaque jour. Merci.
Génial. Je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer avec le baptême, tout ça. Je me présente, j'ai réalisé que tout à l'heure, je n'avais pas pris le temps de me présenter. Je m'appelle Yannick Étier, je suis pasteur à l'église ici. Je le sais, je suis un jeune pasteur, j'ai quand même 40 ans. Une épouse, deux beaux enfants, mais c'est ça, je suis un des pasteurs de l'Assemblée, en fait. Alexandre Marquis, qui va baptiser tout à l'heure, et un autre des pasteurs, Robert Saint-Pierre en a un autre, Michel Famille, donc il y a plusieurs pasteurs ici. Mais je suis un des pasteurs de l'Assemblée, puis c'est moi qui m'applique à l'enseignement généralement dimanche matin. Et donc, ce que je voudrais faire avec vous en quelques minutes, je vais prendre une quinzaine de minutes, pas plus, puis ensuite, on va voir les baptêmes. J'aimerais, dans un premier temps, vous expliquer un petit peu ce qui va se passer, parce que je suis conscient que pour plusieurs d'entre vous, il y a ce qu'on appelle en français un clash culturel. Vous arrivez dans un milieu, vous voyez ça, et des fois, les seules références que vous avez pour pouvoir expliquer ce à quoi vous assistez ce matin, ce sont justement des hurluberlus comme M. Camping ou des gens comme ça. Je l'ai cité volontairement tantôt, d'accord? Je sais que c'est l'image qui peut être peut-être les seules références que vous avez pour comprendre ce que c'est le christianisme. Ce qui est quand même particulier parce que vous admettrez que l'Occident, essentiellement, a été bâti sur le christianisme, d'accord? On est à une époque où les choses bougent très, 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 très vite. Et donc, le Québec s'est transformé très rapidement. Mais vos parents ou vos arrière-grands-parents connaissaient beaucoup d'histoires de la Bible, venaient d'une culture où il y avait beaucoup de choses qu'on mentionne, qu'on dit, qui faisaient du sens dans leur esprit. Et ces choses-là sont passées maintenant, sont différentes. Et donc, je suis conscient qu'il y a un choc et que peut-être pour vous, les évangéliques, c'est ce que vous pouvez attraper par bribes à quelque part, et ça, d'une manière ou d'une autre, c'est associé avec une secte quelconque, d'accord? Et une des choses qui me rend fier des moments où on a des baptêmes comme ceux-là, c'est d'entendre les gens qui viennent articuler leur foi en avant, d'accord? C'est vrai que pendant des siècles au Québec, la foi des individus était davantage la foi d'une communauté. La foi des individus était davantage la foi du prêtre qui était en avant. Et s'il y avait une personne qui pouvait articuler les choses clairement, c'était la personne qui était en avant. J'essaie de le faire de mon mieux moi-même ici, mais ce que vous avez entendu tout à l'heure, ce sont des démarches personnelles. C'est vrai? Vous avez entendu des gens qui ont un cheminement individuel. Vous êtes capable de percevoir que ces gens-là ont fait des choix personnels qu'ils assument. Il y a une intelligence dans cette démarche-là. Il y a une compréhension des choix qu'ils sont en train de faire. Ils sont informés. Eux-mêmes vont ouvrir la Bible, vont lire la Bible, vont chercher à la comprendre. Et c'est une des raisons pour lesquelles on ne baptise pas des bébés dans cette église. Parce qu'on pense que la foi chrétienne, c'est quelque chose qui est sérieux, qui est profond, qui est personnel, premièrement. C'est une décision de communion avec Dieu et ça prend au minimum l'âge vraiment de conscience pour pouvoir commencer à comprendre et cheminer là-dedans. Et vous avez pu même remarquer les différences de témoignages entre des gens qui ont été élevés dans un milieu évangélique et qui ont dû clarifier des choses au fur et à mesure de leur cheminement. Par exemple, est-ce que le baptême, c'est pour les parfaits? Non, c'est pas pour les parfaits. C'est un témoignage de mon identification à Jésus-Christ et le témoignage différent de d'autres qui n'ont pas été élevés dans un milieu évangélique. Et le parcours est différent. Mais dans tous ces témoignages-là, vous pouviez entendre une intelligence personnelle, un cheminement, une foi qui a été réfléchie, une foi qui a été choisie, une foi qui a été décidée. D'accord? À travers le baptême, qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'illustrer quelque chose. D'accord? Jésus lui-même, soit dit en passant, s'est fait baptiser. Si vous n'êtes pas familier avec la Bible, ils vont aller se préparer pour se faire baptiser. Ils font pas ça en veston-cravate. Jésus lui-même s'est fait baptiser un peu comme ça. La cuve n'était pas en métal, on s'entend. C'est sur le bord d'une rivière. Mais il s'est fait baptiser par immersion. C'est-à-dire qu'il n'a pas reçu quelques gouttes d'eau sur le front, mais il a été immergé. Jésus l'a fait, Jean-Baptiste a baptisé Jésus, les chrétiens depuis des millénaires le font. Donc pour nous, culturellement, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais ce n'est pas seulement un geste culturel. C'est pour ça que les gens qui ont donné leur témoignage font cette démarche-là avec grand soin. C'est une démarche qui est personnelle, c'est une démarche qui est individuelle, c'est une démarche qui est lourde de sens pour nous, parce que j'essaie de vous expliquer un peu ce que ça représente le baptême. Dans tout ce que Jésus a dit et dans tout ce qu'il a fait, ce qui est central dans son œuvre, dans son action, c'est ce qui se passe à la croix. D'accord? Jésus, c'était un enseignant extraordinaire. Vous pouvez lire les évangiles simplement pour aller recevoir des paroles de sagesse millénaire et tout ça. Puis oui, c'est génial, absolument extraordinaire. Pour nous, c'est la parole de Dieu. Mais au-delà des enseignements qu'il a apportés, Jésus venait dans un but, dans un objectif, se faire pincer par une gang de malades qui allaient clouer un bois. D'accord? C'était ça l'objectif. Il venait pour être cloué sur cette croix. Il avait annoncé, maintenant lorsqu'on commence à étudier les Écritures plus que ça, on voit aussi que ça avait même été annoncé plus tôt par des choses étranges, je l'admets, qu'on appelle les prophéties. Oui, il y avait des prophéties qui relèvent de siècles précédant ça. Et si vous voulez prendre le temps d'étudier ces choses-là, c'est assez troublant, merci, de voir que des gens, des siècles plus tôt, ont annoncé des choses qui n'existaient pas encore. Et cet homme qui devait être cloué au bois, ses mains devaient être percées, Ces choses-là avaient un sens. Jésus est venu premièrement pour ça, être cloué sur cette croix et par le fait même offrir sa vie en sacrifice. C'était ça le but de son action, mourir. Et d'autres prophéties avaient été faites par lui-même et par d'autres qu'il ressusciterait d'entre les morts. Je sais qu'en disant ça, il y a des oreilles qui se bouchent. Je comprends ça. C'est des choses weird dont je vous parle ce matin, d'accord? Vous êtes dans un milieu vraiment weird ici, puis moi, je suis un gars weird. Ça marche? Mais suivez-moi, je vais juste vous donner quelques explications, c'est bon? Alors, Jésus avait annoncé cette résurrection et des témoins, des centaines de témoins ont rendu témoignage qu'ils l'avaient vu ressusciter. Ils sont morts même pour ce témoignage-là qu'ils ont rendu. Donc, c'est pas peu de choses. Maintenant, le baptême par immersion illustre, c'est un symbole qui illustre l'identification individuelle d'une personne avec l'œuvre de Christ. Pour nous, l'immersion représente la mort avec Christ, d'accord? Comme si ceux qui étaient croyants étaient mis en terre, c'est-à-dire qu'ils meurent avec Christ, renoncent à leur vie à eux pour revivre en Jésus-Christ. C'est simplement un acte de foi qui a déjà été posé dans le passé où ils ont décidé de s'identifier avec cette mort de Christ pour eux afin que les vertus de ce sacrifice-là soient appliquées sur leur vie personnelle, sur leur âme à eux et qu'ils reviennent à la vie avec Jésus-Christ. Et c'est ça qui illustre le baptême. La mort avec Christ, la résurrection avec Christ. C'est pourquoi on le fait par immersion. Même si ça peut être bien étrange sur le plan culturel pour vous, depuis des milliers d'années, les chrétiens le font comme ça. Je sais que vous avez vu d'autres formes de baptême. Malheureusement, il y a des éléments manquants. Lorsque je vais baptiser un bébé, il n'y a pas l'identification personnelle de l'individu. Lorsque j'ai juste le mot sparkling. Lorsque je vais l'asperger de quelques gouttes d'eau, il n'y a pas cette identification de ce symbole de la mort avec Christ. Alors, c'est ça qui va se passer tout à l'heure. Maintenant, je vais prendre quelques instants pour faire une deuxième chose avec vous. Je vais vous lire un court passage dans les Écritures. Et je vous le dis franchement, mon objectif, c'est une seule chose. C'est peut-être vous aider à ouvrir votre esprit. Peut-être pas pour maintenant, peut-être pour plus tard. Alors, je vous le dis, je suis franc avec vous, c'est ça mon objectif. Je vais vous lire quelques versets qui sont tirés d'un des évangiles. D'accord? La Bible est composée de 66 livres différents qui ont été mis ensemble. Et nous croyons, nous chrétiens, que c'est vraiment la parole de Dieu. Un de ces livres-là, c'est l'évangile selon Matthieu. Dans les quatre évangiles, on retrouve essentiellement ce que Jésus a fait, ce qu'il a dit, ses paroles, ses œuvres, ses actions, narrées par quatre narrateurs différents. Je m'en vais dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11. Ceux qui ont leur Bible, vous pouvez tourner avec moi. Je pense qu'on va essayer de vous présenter ça aussi à l'écran. Je vais lire les versets 25 à 30. Matthieu 11, 25 à 30. Je vous donne un instant pour tourner. Ah, c'est super, merci. Vous êtes capable de lire ça, cette grosseur-là? On a eu un petit problème technique, on s'est rabattu sur un autre logiciel. C'est lisible, tu sais. OK. Alors, Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit... Alors, il parle aux gens, mais en même temps, il adresse une prière à son Père céleste. Il adresse une prière à Dieu. Et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » En parlant de Fils, évidemment, il parlait de lui. D'accord. Verset 28 s'adresse à la foule maintenant. Et il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Un court extrait de l'évangile de Matthieu. Et j'aimerais ça adresser une question avec vous, d'accord? Parce que je me suis juste pris quelques notes. Souvent, l'image qui est donnée au Québec de la foi, c'est que c'est quelque chose qui est fait pour les faibles. C'est quelque chose qui est une béquille pour les gens faibles. Maintenant, les gens que vous avez entendu parler tout à l'heure en avant, j'aurais de la difficulté à les qualifier comme des gens faibles, des gens qui suivraient... j'ai des gars qui me taquinent puis qui m'appellent le pape douteux. Moi, je dirais plutôt le gourou gâteux, d'accord? Mais j'ai de la difficulté à voir ces gens-là en avant comme des gens faibles qui seraient juste en train de suivre une espèce de gourou qui est là pour les arnaquer, puis les embobiner, puis maîtriser leurs pensées, tout ça. Mais quand même, il y a cette image qui est donnée souvent de ceux qui décident de placer leur foi en Christ, de gens faibles, fondamentalement faibles, des esprits faibles. Voici ce que j'ai à dire, d'accord? C'est pas tout à fait faux dans un sens. Écoutez bien ça. Suivez-moi, s'il vous plaît. Dans Matthieu, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Si vous avez connu intimement, si vous avez des proches à vous qui ont placé leur foi en Jésus, il y a même de fortes chances que si vous les connaissez bien, vous les avez vus placer leur foi en Jésus dans un moment de fragilité dans leur vie. C'est très, très probable. C'est mon cas à moi. D'accord? J'ai été élevé dans une église évangélique à partir de l'âge de 7 ans. J'ai placé ma foi en Jésus-Christ à l'âge de 18 ans dans un moment de fragilité, d'écœurement royal envers ma propre personne, de découragement profond. Mais l'appel de Jésus, c'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Voici l'explication que j'aimerais vous donner, d'accord? Je vous propose cette explication-là à ce phénomène qui fait que bien des gens viennent à la foi dans un moment de fragilité. Je pense personnellement qu'il y a des moments dans nos vies où nous sommes plus réceptifs. On est capable d'arrêter un peu, de juste suivre le train-train, courir après nos rêves, souvent débiles et débilitants, pour pouvoir s'arrêter, entrer en nous-mêmes et réfléchir. Ces moments-là viennent souvent dans des moments de fragilité. Et à ce moment-là, vous voyez quelqu'un qui place sa foi en Jésus-Christ et vous dites, « Ah, il a trouvé une béquille. » Ça, c'est sa béquille, il a trouvé une béquille. Maintenant, si on va être honnête ensemble, on en a tous des béquilles. Vous en avez tous dans vos vies. Il y en a que c'est des pilules. Il y en a que c'est aller clubber le vendredi soir. Si vous sortez pas, la vie, c'est la dépression totale. Vous êtes pas capable. Il y en a que ça prend le petit jig, un petit joint à la fin de la journée, sur la pause à la job. Je m'en vais fumer mon jig. C'est votre béquille. D'accord? On en a tous des béquilles. Chez d'autres, ça va se présenter d'une manière un petit peu plus perverse. Tantôt, Julien a mentionné, il a dit à un certain moment donné, j'ai réalisé que le sport était en train de prendre trop de place dans ma vie. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité, mais on est en train de découvrir de plus en plus l'histoire de Armstrong, le champion mondial de cyclisme. Et ça devient de plus en plus clair que le monsieur n'était pas trop, trop clean. Hein? Il consommait de l'EPO et tout ça. Mais voyez-vous, probablement, si les choses s'avèrent, d'accord? Probablement, si les choses s'avèrent vraies, la béquille d'Armstrong, c'était la gloire. C'était ça, sa béquille à lui. Et il était prêt à dévaster complètement sa vie juste pour pouvoir atteindre ça. Atteindre cette renommée qui l'amène à faire les pires conneries du monde. C'était ça, sa béquille. C'est là-dessus qu'il s'appuyait. Sa vie perdait son sens s'il ne pouvait pas s'appuyer sur cette gloire. Alors, chez certains, ça va être les pilules. Chez d'autres, ça va être d'autres choses. Mais on est tous comme ça. On est tous des êtres qui avons certaines fragilités et on va chercher à s'appuyer sur quelque chose. Chacun d'entre nous. Vous avez peut-être connu des gens qui sont venus à la foi chrétienne dans des moments de dépression profonde. Et même avec des pensées suicidaires. Est-ce qu'il y a encore un Québécois, est-ce qu'il y a encore une personne au Québec qui est capable d'affirmer que jamais dans sa vie il va avoir des pensées suicidaires? Est-ce qu'il y en a un au Québec qui est capable d'affirmer ça? Je pense qu'on est tous rendus à l'étape où on se dit, tôt ou tard, ça va me passer par la tête, j'espère juste que je ne le ferai pas. Alors, voyez-vous, on a tous de ces fragilités. Je ne crois pas personnellement qu'elles sont tous négatives. Je ne crois pas que ça nous mène à l'abrutissement. Je pense que c'est des moments souverains, souvent des moments divins, qui nous permettent de s'arrêter, d'entrer en nous-mêmes et de réfléchir. Puis la question fondamentale, c'est vers qui vous allez vous tourner? Un jig, des pilules, le sport, l'âme sœur qui va combler ma vie et guérir tous mes maux. Je ne sais pas vers qui vous allez vous tourner dans ces moments-là. La proposition que moi je vous fais, c'est que Christ est définitivement la meilleure option. Jésus-Christ est définitivement la meilleure option. C'est pour ça que Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et que vous voyez des gens venir à Christ dans des moments de fatigue, de faiblesse, de fragilité, parce qu'ils ont cette ouverture pour se remettre en question. » Sylvie nous l'a bien partagé tantôt. Elle ne croyait pas à une ouverture qui s'est placée dans son esprit pour voir les choses autrement. Peut-être que vous n'êtes pas là du tout actuellement, puis c'est votre premier contact avec la foi, puis vous dites « Cette gang-là, ils m'ont amené ici, puis regarde le gourou gâteux en avant, il essaie de m'enfirouaper. » Gardez ça dans votre esprit. Gardez ce que je vous partage là dans votre esprit. Peut-être que ça sera plus tard. Dans le même passage que je vous ai lu tout à l'heure, Jésus dit « Nul ne vient au Père, nul ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils qu'il révèle. » Nous croyons fermement que c'est Jésus-Christ qui peut nous faire connaître Dieu comme personne. Comme personne. Si vous êtes prêt à lire un petit peu, et je termine là-dessus, si vous êtes prêt à lire un peu sur ce que Jésus a fait, vous allez devoir admettre qu'il est quand même exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. Vous vous dites, il y a comme plein de religions, puis pourquoi celle-là plus qu'une autre? Explorez-les tous. Allez lire le Coran, allez lire les autres. Allez-y, prenez le temps de grâce de lire l'Évangile. Ça a marqué l'Occident. Ça a marqué votre histoire. Vos pensées sont plus façonnées par le christianisme que vous pouvez même l'imaginer. Mais prenez le temps simplement d'ouvrir les Évangiles et d'aller lire. Comparez Jésus avec les autres, il n'y a pas de problème, ça ne nous inquiète pas. Il supporte très bien la comparaison. Très, très bien. Pourquoi? Parce que lui seul est venu avec ce projet, nous croyons, divin, de venir offrir sa vie en sacrifice sur la croix. Voyez-vous, pour nous, la vie chrétienne, ce moment-là dont je parle de fragilité, où on commence à se tourner vers Dieu, ce qui est au cœur de ça pour nous, c'est la paix intérieure. C'est une paix profonde, intérieure, où je vais pouvoir être réconcilié avec Dieu, avec moi-même et avec mon histoire. Pour nous, le début de la vie, ça s'appelle pardon. Un pardon divin qui vient vous réconcilier avec tout ce que vous êtes comme personne parce que vous recevez la grâce d'être pardonné de Dieu. Et vous avez vos histoires à vous, vos histoires que vous ne voudriez pas partager ici sur la place publique. Mais pour nous, la foi chrétienne, c'est ça. Ça s'appelle le pardon et la grâce de savoir après que je suis dans une relation personnelle avec Dieu, une relation d'amour inconditionnel et je peux me reposer sur Dieu. Alors j'aimerais ça vous encourager, juste à garder ça à l'esprit. Si ce n'est pas maintenant, ça va être plus tard. Il va survenir dans vos vies des moments de fragilité. La question, c'est où est-ce que vous allez vous tourner? Vers qui vous allez vous tourner? Donnez une chance à Christ. Allez lire les Évangiles. Posez des questions. Lancez un cri d'alarme à Dieu. Demandez-lui de se révéler à vous. Il y a une grâce qui est là. Il y a une grâce merveilleuse qui est là pour avancer après dans la vie. Me savoir en paix avec Dieu, réconcilié avec Dieu et grandissant tranquillement à travers les années. On va passer maintenant au temps des baptêmes.